Aujourd'hui, l'Église nous propose de contempler une naissance miraculeuse. Alors en fait, nous avons dans la première lecture une naissance miraculeuse, et puis dans l'Évangile, une autre naissance miraculeuse. Ces lectures ont toujours une particularité. C'est-à-dire que celui qui va naître naît d'une mère qui est déclarée stérile. Ah, on peut déjà remarquer qu'à cette époque, quand il y a un problème de conception, c'est immédiatement la femme qui doit être stérile. Il n'est jamais envisagé que ça puisse être l'homme. Quoi qu'il en soit, on dit tout de même que l'homme et la femme sont âgés. Donc on a une stérilité, un âge avancé et un résultat incohérent. On a un résultat incohérent, c'est-à-dire que d'abord il y a une conception, que l'enfant est en parfaite santé, et que, en l'espèce, dans l'Ancien Testament souvent, c'est un être plutôt herculéen. Samson, c'est un cas notable. Quelqu'un d'extrêmement fort. Et je crois que ça peut nous faire réfléchir en nous montrant que le résultat de l'intervention de Dieu, lorsque Dieu veut que les choses se fassent d'une manière particulière. Alors il ne faut pas entendre que Dieu voudrait que les choses ne se fassent pas d'une manière particulière quand ça ne se passe pas bien. Parce qu'en fait, ça se passe toujours bien. L'âme humaine est toujours parfaitement créée. Le corps, pas toujours. Et nous ignorons souvent la souffrance d'une âme lorsqu'elle se trouve dans un corps qui n'est pas adapté à transmettre ce qu'elle désire transmettre. Nous n'avons pas cette connaissance. Nous voyons bien qu'il y a des choses qui se passent, mais nous ne savons pas. Et nous serons sans doute extrêmement surpris au ciel. Donc ici, nous avons l'annonce d'une conception miraculeuse qui vient tout simplement nous montrer que ce qui se passe dans l'Évangile, avec la conception de Jean-Baptiste, n'est pas une première, si je puis dire. Donc ses parents, ceux de Jean-Baptiste, sont sans enfants. Ils sont âgés. Et il y a tout un symbolisme d'un monde ancien qui est stérile. Et ça doit nous éclairer parce que la stérilité annonce quelque chose. Contrairement aux lois humaines, notre regard sur la stérilité doit nous dire, tiens, il se pourrait bien que ce soit le moment où Dieu va agir. Alors c'est très éclairant pour notre société actuelle, qui est dans un état de stérilité assez impressionnant, dans beaucoup de domaines, pas dans tous, et pas total. Mais il y a une grande stérilité spirituelle. Il y a un individualisme pantagruélique. Il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent nous faire dire, tiens, finalement, il y a les signaux pour qu'il se passe quelque chose d'assez extraordinaire, et d'improbable, et d'impossible à vue humaine. Et vous voyez, ce regard-là, on l'a qu'à partir du moment où on connaît l'Écriture sainte, parce que c'est pas scientifique. Et donc il y a une espérance qu'on ne peut trouver que si on a une connaissance de l'Écriture sainte. Voilà. Donc ça c'est, à mon avis, extrêmement important pour nous. Et puis nous avons donc dans cette, dans dans cet évangile, où nous sommes déjà entrés du reste, avec cette incohérence des récits des naissances, si on veut comparer, par exemple, Jean-Baptiste et Jésus. Alors Marie n'est pas stérile, et Joseph et Marie ne sont pas vieux. Et il y a quelque chose d'intéressant là, c'est que dans toutes ces naissances miraculeuses, il y avait une cause députée au moins, comme une déficience de la nature. Là, il va y avoir une suréfficience de la nature chez Marie. C'est assez bouleversant quand même, hein, quand on veut bien réfléchir. Alors sinon, pourquoi je dis qu'il y a des incohérences? Parce que Jean-Baptiste, l'annonce de sa conception va se faire dans un temple. Jésus, l'annonce de sa conception se fait dans une petite maison de Nazareth. Et à Joseph et à Marie. Zacharie est prêtre. Joseph est un simple artisan. Il n'est pas prêtre. Élisabeth veut dire la maison de Dieu. Myriam. Myr, c'est le parfum, Yam, c'est l'eau. Donc ça avait été traduit un jour par une phrase qui est assez belle. Comme un océan de parfum, Marie. Bon. On pourrait dire aussi une eau d'amertume, quoi, vous voyez. Parce que Myr, mais Myr, c'est plutôt du parfum quand même. Enfin, la myrrhe, ça préfigure une mort aussi, hein, donc c'est compliqué, quoi. Mais un océan d'embaumement, on pourrait dire, oui. Les parents de Jean-Baptiste sont vieux, les parents de Jésus sont jeunes. Dans les deux cas, il y a une apparition. Alors là, on peut comparer les apparitions de deux manières. On peut dire, tiens, on va comparer... l'annonce qui est faite à Zacharie et celle qui est faite à Marie. Mais on peut aussi dire, on va faire comparer, donc celle qui est faite à Zacharie et celle qui est faite à Joseph. Et nous comparons que, nous constatons que Zacharie est bouleversé, alors qu'il n'ait rien dit de Joseph. Joseph, il est juste dit, il se leva et il fit ce que l'ange lui avait dit. C'est assez impressionnant. Joseph n'est pas bouleversé. Là, Zacharie bouleversé. Dans les deux cas, nous avons une prophétie. Un enfant est prophétisé comme le futur Élie, qui revient donc. L'autre enfant, c'est Dieu, qui, si je puis dire, revient lui aussi. Il revient de très loin. Il revient du jardin d'Éden, où l'homme a été chassé, d'où l'homme a été chassé. Et il revient en tant que deuxième personne de ce Dieu. Ce Dieu qui prend la parole. dans les Targoumim de l'Ancien Testament. Notamment en Genèse, il n'est pas dit « Dieu dit ». Il est dit « La parole de Dieu dit ». Et nous mesurons combien... c'est le verbe qui crée. Et bien là, c'est le verbe qui est annoncé pour recréer, pour réparer, mais pas seulement. Jésus n'est pas un réparateur. C'est un des drames de notre foi, c'est de considérer Jésus comme un réparateur. Jésus ne vient réparer que dans le but de s'unir à nous et de nous unir à lui. Et très très souvent, nous prenons le don pour l'auteur du don. Alors oui, il faut se réjouir quand nous avons une joie, quand nous éprouvons une joie spirituelle, quand les choses réussissent. Mais il ne faut pas tomber dans la vulgarité. Progressivement, ça s'apprend. Hein. C'est difficile, parce qu'on a un côté animal. Pas tomber dans la vulgarité qui consiste à se réjouir du sucre, au lieu de se dire c'est le signe C'est un signe de Dieu. Et c'est Dieu que j'aime. Tant mieux pour le sucre. Ou tant pis pour le sucre, j'en sais rien. Mais, Seigneur, c'est toi qui es là. Bon, fin de digression. Et tant quand on n'arrive pas à relier à ce relier. Et alors, Zacharie pose une question. Zacharie pose une question. Comment je vais savoir que c'est vrai ce que tu racontes? Et là, par contre, je vais faire le parallèle avec Marie. Parce que Marie ne dit pas comment je vais savoir que ça va être vrai. Mais elle dit comment ça va se passer ce que tu viens de dire, qui est vrai. J'ai foi en ce que tu viens de dire. Mais je connais personne, moi. Autrement dit, Marie n'a aucune idée d'une conception miraculeuse. À Zacharie, on lui dit « Ta femme va être enceinte. Soit dit en passant, mécaniquement, il n'y a pas de problème. Il va y avoir un homme et une femme. » Et Marie dit « Il n'y a pas d'homme pour concevoir. » Mais pour l'heure, c'est le cas. Et l'ange aurait pu lui dire voilà, Joseph va te prendre chez lui et les choses vont suivre leur cours. Moi, je ne dis pas que c'était possible pour avoir un Messie, mais je dis en soi, on pourrait imaginer cette fin, non, pas du tout. Pas du tout. Et donc, l'ange Gabriel lui dit oui, il va se passer un truc bizarre qui ne s'est jamais passé avant. Il va y avoir une conception sans intervention d'homme. Alors là, je vous invite à, si vous y avez accès, à aller contempler les antiennes du 1er janvier dans l'office bénédictin. C'est les plus belles antiennes du répertoire grégorien, je pense. C'est absolument bouleversant. De même que l'antienne du Magnificat des premières vêpes, c'est Magnum Mysterium. C'est le summum de la contemplation, à mon avis. C'est le moment de l'incarnation qui est mis en musique, c'est bouleversant. Et Marie pose un peu une question, c'est vrai, sur ce qu'elle doit faire. Joseph, lui, ne pose aucune question. Il se lève et il le fait. Autrement dit, chez Zacharie, il y a un doute. Chez Joseph, il n'y a rien. Et chez Marie, il y a une question. Parce que la femme est un être qui, si je ne me trompe, hein, peut-être qu'il y a des femmes qui peuvent réagir, qui a ce souci de disposer les choses pour qu'une naissance puisse avoir lieu. C'est-à-dire que l'homme, il exécute beaucoup. L'homme, il a un côté un peu carré. La femme, pour mettre au monde, pour envisager d'avoir un enfant, elle réfléchit pour savoir si le lieu dans lequel elle va mettre au monde est viable. Dans la mesure où c'est un enfant, j'allais dire prémédité, si vous voulez. C'est-à-dire... On se dit, bon voilà, ce serait bien qu'on ait un enfant, est-ce que c'est le moment, etc. Voilà. L'homme, il va regarder le côté financier, technique, voilà. La femme, elle a cet art de chercher à rendre confortable le lieu, de rendre habitable un lieu. Et Marie, finalement, pose cette question, comment dois-je me rendre habitable? Et là, l'ange lui dit « Ne t'inquiète pas, l'Esprit Saint s'occupe de tout. » Vous voyez, il y a un très beau transfert, c'est que Marie va devenir le temple de Dieu. L'auteur, celui qui habite le temple de Dieu, va prendre chair en Marie, qui devient le temple de Dieu. C'est... Et il y a tout un transfert qui se fait Enfin, pas un transfert, tout un... Oui, si, tout un transfert. C'est absolument incroyable, quoi, parce que... Et on dit, et l'ange lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi, de même que la Shekinah, dans le livre des Exodes, descendait sur la tente du rendez-vous. On a que j'aille vérifier, mais j'ai entendu que c'est le même verbe grec, descendre. Voilà. Voilà, cette naissance elle nous annonce quelque chose de. La fin d'une honte, vous voyez, la fin de l'évangile. Élisabeth dit, voilà ce qui faisait ma honte aux yeux des hommes. Je n'avais pas d'enfant. Et c'est déjà l'œuvre du Seigneur, vous voyez, qui vient guérir ses hontes, qui vient remplir. Shalom, en hébreu, c'est l'idée de remplir. Ça veut dire remplir la paix, c'est une... J'allais dire une remplitude, c'est le fait d'être complet. Il n'y a plus de place pour autre chose, tellement il y a de paix. Et on a cette idée dans une conception. L'enfant conçu prend toute la place. Voilà. Alors contemplons cette paix et surtout cette action qui se fait. Au loin du regard des hommes, voyez. Elle garda le secret pendant 5 mois. Ne fait pas de bruit. Il n'y a rien. Elle se cache. Toujours savoir que les merveilles de Dieu se font plus facilement dans le secret. Et que quand elles ne se font pas dans le secret, c'est peut-être pas des merveilles de Dieu. Ou bien, elles ont peut-être été détournées. Voilà. C'est une question, hein, on ne peut pas savoir. Contemplons donc.